souligner combien la vie était dérisoire. Et c'est vrai que sans Dieu, sans Christ, la vie n'a pas de valeur. Elle passe si vite, et puis au bout du compte, on s'en va sans aucune espérance dans notre cœur. Mais notre but cet après-midi, eh bien, c'est de faire en sorte que, ouvrant votre cœur, notre cœur, à l'amour de Dieu, vous puissiez recevoir ce qu'il a de meilleur à vous donner. Alléluia. Le pardon de vos péchés. Le salut de votre âme. Et pour ceux qui souffrent aussi, physiquement, moralement, la guérison dont ils ont besoin. Tout cela parce que Jésus nous aime. Alléluia. Alors nous allons voir justement l'histoire d'une femme à laquelle le Seigneur a manifesté, envers laquelle le Seigneur a manifesté sa grâce et cet amour de Dieu dont elle avait tellement besoin. Nous lirons pour cela dans l'évangile de Jean, chapitre 8, et au verset 1er. Voilà, l'évangile de Jean, chapitre 8, et le verset 1er. Voilà, peut-être je vais me mettre sur le côté pour qu'on voit le texte qui s'affiche à l'écran. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire des hommes éminemment religieux, amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Ils disaient cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. » Voilà, je crois que déjà mardi soir ou dimanche passé, dimanche après-midi, nous avons déjà évoqué le cas de cette femme. Mais vous savez, j'ai remarqué dans la Bible que le Seigneur Jésus, ou puis même les apôtres, répétaient souvent les mêmes enseignements et les mêmes prédications. L'apôtre Paul écrira par exemple, « Je ne me lasse pas pour vous de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Alors je vais donc les imiter, en tout cas dans ce domaine-là, et c'est pourquoi nous lisons ce texte. J'ai lu ce passage, ces jours-ci, et cette histoire m'a encore touché. Voir Jésus à l'œuvre, en train de sauver une âme, combien c'est merveilleux. Et soyez-en sûrs, ce qu'il a fait pour elle, il veut le faire aussi pour vous, même si peut-être, eh bien, vous n'avez pas vécu dans les mêmes désordres moraux que ceux dans lesquels elle trempait. Elle avait commis adultère. L'adultère est un péché. Parmi la liste des 10 commandements, il y a celui-ci qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Alors, il y a l'infidélité conjugale, c'est vrai. Mais Jésus, dans les évangiles, va plus loin que cela, en disant que celui qui regarde une femme, ou inversement, un homme, pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis avec elle adultère en son cœur. Désirer, convoiter, façonner, fantasmer, pardon, imaginer dans son esprit d'assouvir ses pulsions, avec telle ou telle personne. Et cela, mes amis, eh bien, c'est un péché tellement commun. D'ailleurs, la parole de Dieu est là pour nous montrer que toute relation physique, toute relation sexuelle, en dehors du cadre exclusif du mariage, est un péché. Dieu, dans sa parole, nous montre qu'il a beaucoup d'intérêt, beaucoup de respect pour le corps humain. Et de la même manière que Dieu respecte notre corps, nous devons le respecter nous-mêmes. Dans la première épître aux Corinthiens, je lis pour vous au chapitre 6, au verset 18, l'apôtre dit ceci: « Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche ou à l'impudicité, c'est la même chose, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voyez, Dieu veut faire de notre corps le temple, la demeure, l'habitation de son esprit. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, qu'il désapprouve vivement, eh bien, une vie de débauche, une vie de patachon, comme on dit, une vie de corruption, comme le genre de vie que cette femme avait vécu jusque-là. Je voudrais dire ceci, oui, le corps doit être glorifié, enfin tout au moins Dieu doit être glorifié au travers de notre corps, et nous devons le maintenir dans la pureté, dans la pudeur et dans la décence. Dans un autre passage que je me permets de vous lire, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, l'apôtre Paul va, eh bien, un petit peu dans la ligne de ce que nous avons lu précédemment, écrire ceci: « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre sainteté. » Voilà le défi qui est proposé aux croyants, voyez, vivre dans la sainteté, vivre dans la pureté. Ce n'est pas à l'ordre du jour, ça, à vue humaine, mais c'est ce que Dieu veut, nous dit le texte. « C'est que vous vous absteniez de la débauche, ou l'impudicité, on y revient. » C'est que chacun de vous sache posséder, c'est-à-dire maîtriser son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous montre. Vous voyez, nous sommes loin là des principes que le monde affiche, où sous prétexte de liberté, eh bien, on se livre à corps perdu. C'est vrai, le mot est juste, à toutes sortes de plaisirs illégitimes. Vous savez, même le flirt, puisqu'il y a des jeunes parmi nous et des moins jeunes, Dieu n'a pas fait de nous des abeilles ou des bourdons qui sont appelés à butiner de fleur en fleur. Non, ce que Dieu veut, mon ami, c'est que tu trouves un jour la femme qui deviendra la femme de ta vie, ou que tu trouves, jeune fille, l'homme qui deviendra l'homme de ta vie, et que tu n'en connaisses point d'autre. C'est là la ligne de vie, c'est là le chemin tracé par Dieu dans sa parole, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Et il n'y a certainement aucune honte à avoir de ne pas avoir essayé ici et là d'aller avec n'importe qui et de faire n'importe quoi. La pureté n'est pas une tare, c'est une vertu. Alléluia. C'est la Bible qui nous le montre. Ce genre de péché que cette femme avait commis, ce récit n'est pas là pour nous montrer qu'on peut le minimiser. Jésus n'a pas traité l'affaire à la légère, comme disant, eh bien, c'est pas trop grave, c'est pas trop méchant, on va pas en faire toute une affaire. Hein? Non. Le Seigneur dénonce les péchés, mais s'il les dénonce, il est également aussi celui qui offre le plein pardon. Amen. Et c'est de ce pardon dont cette femme va bénéficier. Voyons un petit peu dans les détails comment les choses se sont passées pour elle. Alors, ses accusateurs l'ont traînée, j'imagine, au pied de Jésus. Et je remarque l'hypocrisie de ses accusateurs. Avez-vous remarqué ce qu'ils disent précisément? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Ça n'était pas vrai. Comment ça n'était pas vrai? La loi n'ordonnait pas que la femme seulement soit châtiée, mais l'homme aussi. que l'homme et la femme subissent la lapidation. Mais eux, n'est-ce pas? Eh bien, sous prétexte de se draper dans leur dignité religieuse, prenaient quelques libertés avec la parole de Dieu. En fait, ils avaient, comment dire, une idée derrière la tête. L'Écriture nous dit qu'ils voulaient pouvoir prendre Jésus au piège, pouvoir l'accuser. L'accuser de quoi? Eh bien, de se mettre en contradiction, soit avec la loi qui ordonnait la lapidation dans de tels cas, la loi de Moïse, soit avec ses propres principes de miséricorde. C'était un piège habile. Hein? Et ils insistaient. Toi donc, que dis-tu? Et pendant ce temps, pendant qu'ils vociféraient, Jésus se courbe à terre et il écrit avec son doigt. Je ne sais pas ce qu'il a écrit, et vous non plus, et personne ne le sait, alors on ne va pas essayer de le savoir. Mais le fait, c'est qu'ils insistaient lourdement. Mais vous savez, Jésus ne peut jamais être pris en défaut. Amen. Il est plein de sagesse, il est parfait, et il est aussi sans péché. Et oui, parce que ce genre de péché se commet généralement à deux, mais elle était là seule, et c'était injuste, devant ses bourreaux. C'est souvent comme ça, la justice humaine, vous ne trouvez pas? Elle est partielle ou partiale, n'est-ce pas? Très souvent, quand on pêche, on ne pêche pas tout seul, mais généralement à plusieurs. Mais par contre, très souvent aussi, on doit faire face aux conséquences, aux effets de nos péchés, seul. Pas seul pour pécher, mais seul pour assumer les conséquences du péché. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si le bonhomme, il avait de gros bras. Je ne sais pas si quand les accusateurs qui les ont pris en flagrant délit sont arrivés, il s'est débattu. En tout cas, il a filé et elle est restée entre leurs mains. Seule, elle était avec sa honte, avec son humiliation, parce que le texte dit que tout ça s'est passé en public, devant le peuple. On l'a traîné là, dans le temple, n'est-ce pas? Et des dizaines, je ne sais pas, peut-être des centaines de personnes se sont attroupées pour voir le spectacle. Vous avez remarqué que la foule est souvent cruelle, n'est-ce pas? Et il y a une espèce plaisir malsain que les gens ont pris à voir cette femme accusée. Voilà ce qu'elle a fait. Quel misérable, seul avec sa culpabilité, seul avec aussi la menace qui pesait sur elle. Dites-moi, la condamnation, la lapidation, c'est épouvantable, la mort. Toi donc, Jésus, que dis-tu? Imaginez un instant que Jésus ait dit, eh bien soit, elle a péché, la loi dit que, allez-y! Oh, certainement qu'il devait avoir déjà les cailloux dans la main. Et ils étaient prêts à les lui jeter à la figure. Il y a toujours un temps, voyez, où après avoir voulu connaître des plaisirs illégitimes, on en subit les effets désastreux. Non, il n'y a rien de bon, soyez-en convaincus, à attendre du péché. Le monde nous dit, mais ça n'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux, tu peux vivre comme bon te semble. Tu peux avoir tes principes moraux personnels sans te référer à ce vieux bouquin poussiéreux que les croyants appellent la Bible. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et le plaisir que l'on peut tirer du péché, il est toujours de courte durée. La Bible le dit d'ailleurs. La joie du pécheur. Elle ne dit pas qu'il n'y ait pas du plaisir à faire le mal. C'est ainsi. Il y a quelque chose de tordu chez l'être humain, chez vous, chez moi, comme chez elle, qui souvent prend plaisir à faire ce qui est mauvais. Mais la joie du pécheur, nous dit la Bible, elle est de courte durée. Ensuite, ce qui se passe, les conséquences, les effets sont désastreux, catastrophiques. On en est là. Elle est menacée de mort, c'est pas rien. Mourir par lapidation, c'est affreux. La sagesse de Jésus va se manifester en une seule phrase. Il renvoie les accusateurs à leur propre conscience et il arrache cette femme de leurs mains sans contredire ni la loi ni la miséricorde de Dieu. Celui de vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Fallait y penser, hein? Vous ne trouvez pas? Il n'a pas dit, attendez les amis, la question est délicate. Laissez-moi la soirée pour réfléchir, on en reparlera demain matin. Non, il fallait qu'il se prononce là tout de suite. Et de sa décision, eh bien, dépendait soit la vie, soit la mort de cette femme. Mais en quelques mots, l'affaire a été réglée. Celui de vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Et puis, sans faire le moindre commentaire supplémentaire, Jésus à nouveau s'est courbé jusqu'à terre et il a continué d'écrire sur le sol. Alors, bien sûr, celui de vous qui est sans péché, dites-moi, qui est sans péché? Qui peut relever le défi? Qui peut se prétendre impeccable? D'ailleurs, impeccable, ça veut dire sans péché. Qui peut affirmer que jamais, jamais dans sa vie, il n'a transgressé la loi divine, d'une manière ou d'une autre? Personne, pas plus ces gens religieux que les autres. Et tout à coup, suite à cette parole du Seigneur, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre, tout à coup, ils se sont sentis mal à l'aise. L'Écriture dit qu'ils étaient accusés par leur propre conscience. Vous voyez ? La conscience, qu'est-ce que c'est ? La conscience, c'est cette faculté que l'être humain possède. C'est Dieu qui a mis ça en nous. Un animal n'a pas de conscience, il agit par instinct. Mais la conscience, c'est cette faculté qu'a l'être humain de porter des jugements de valeur morale sur ses propres actes. En moi, il y a un juge. C'est la conscience. Qui, quand je fais mal, me dit « tu fais mal ». Qui, quand je fais bien, dit « tu fais bien ». Et ce juge-là, même si sa voix intérieure est fort discrète, je n'arrive pas à la faire taire. C'est pas vrai? Vous pouvez vous boucher les oreilles, vous pouvez mettre la musique à fond, vous pouvez regarder une série télé, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez faire pour faire taire votre conscience, vous n'y arriverez pas. Et ces gens-là n'y sont pas arrivés. Accusés par leur conscience, mal à l'aise, confus, et ils sont partis un par un. J'oserais dire presque sur la pointe des pieds. Vous voyez, sur la pointe des pieds. Dommage qu'ils soient partis d'ailleurs. Dommage pour eux. Car eux aussi, s'ils l'avaient voulu, ils auraient bénéficié du pardon dont ils avaient besoin, d'accord? Ils n'avaient pas peut-être commis l'adultère dans sa pratique ordinaire, si je puis dire. Il y avait tant d'autres choses dont ils avaient à se faire pardonner, à commencer par leur hypocrisie. Parce que, mes amis, quand Dieu parle de nos péchés, il ne parle pas seulement de ce qui se voit au grand jour, comme le nez au milieu de la figure, mais il parle de ce qu'il y a intérieur, de profond, que personne ne voit, mais que lui sait, qui apparaîtra si nous ne voulons pas régler le problème au jour du jugement, puisque la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il mettra toutes choses en pleine lumière. Alors, accusés par leur conscience, plutôt que de régler l'affaire en disant « C'est vrai, Seigneur, après tout, nous sommes aussi des misérables. Fais-nous grâce !» Ils ont préféré se retirer un à un. Et vous savez, je suis sûr que leur conscience a continué de les poursuivre. Le problème n'a pas été résolu pour autant. Tandis que la femme, elle est restée là. Voyant ses accusateurs partir de ce côté, elle aurait pu en profiter pour partir de ce côté-là, en disant, eh bien, je m'en suis sorti, ouf, j'ai eu chaud, mais tirons-nous en catimini, et puis voilà. Non, elle est restée. Le texte dit, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et on peut inverser en disant que la femme est restée seule avec Jésus. Elle aurait pu fuir, elle aussi, elle ne l'a pas fait. Elle est restée avec Jésus, elle est restée devant Jésus. C'est ce qu'il vous faut faire cet après-midi. N'essayez pas de fuir. Il y a toutes sortes de manières de fuir. On peut fuir physiquement. Vous pouvez vous lever, là, vous en avez le droit. Franchir la porte et puis courir jusqu'au bout de la rue et même jusqu'au bout du monde. Mais on peut fuir intérieurement tout en restant présent physiquement. en se fermant à la parole de Dieu, en disant non, je veux pas de ce Jésus, j'ai pas besoin de lui. Je veux continuer à vivre mon style de vie habituel et le péché, tout cela, ben ça fait rien. Ça n'est pas ce qu'il faut faire. Elle reste seule devant Jésus. Et il s'est entendu dire de la bouche du maître, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il y a beaucoup à dire là-dedans. D'abord, Jésus aurait pu, lui, la condamner, non ? Il avait dit que celui de vous qui est sans péché, jette la première pierre. Et Jésus est sans péché. L'Écriture dit que il est innocent, il est pur, il est sans péché, il est séparé des pécheurs. Il est d'une perfection morale absolue, totale, non seulement dans ses actes, mais aussi dans ses sentiments, dans ses pensées, dans ses motivations. Jésus est la pureté même, la sainteté même. Le péché ne l'a jamais effleuré. Oh, il a été tenté comme nous, pourtant, dit l'Écriture, en toutes choses. Sans commettre de péché. À ce titre, remplissant les conditions qu'il avait lui-même définies, celui de vous qui est sans péché, qui jette la première pierre, il aurait pu prendre la pierre et la lui jeter. Mais il ne l'a pas fait. Je ne te condamne pas non plus. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi? Parce que la condamnation que cette femme méritait, c'est Jésus qui l'a prise sur lui. Vous comprenez ça? La condamnation de cette femme, Jésus l'a prise sur lui. La condamnation que cette femme méritait, il l'a prise sur lui, Jésus, en mourant sur la croix. Et il a été ainsi condamné à sa place. Et vous savez, non seulement à sa place à elle, mais à la place de chacun d'entre nous. C'est ce que la Bible dit, veut dire quand elle dit Christ est mort pour nous. Il est mort à cause de nous. Il est mort pour subir en lui-même les conséquences de nos péchés. C'est pourquoi le pardon est possible. Non. Dieu, quand il pardonne, ne ferme pas les yeux sur le péché. Non, non, non. Mais il fait subir à son Fils Jésus-Christ, bien-aimé, le juste châtiment, la juste condamnation que nous méritions. L'œuvre de Christ sur la croix, c'est à la fois une œuvre d'amour. Il a fait ça parce qu'il nous aimait. On a parlé de l'amour de Dieu tout à l'heure. Michel en a parlé. Le cantique en a parlé. Mais c'est aussi une œuvre de justice. Vous voyez ? Il fallait que le péché soit sanctionné, que le péché soit châtié. Il fallait que la loi s'applique. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, mes amis, pour que nous vivions, Jésus est mort à notre place. C'est pour ça que Jésus se permet de dire à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus. » Parce qu'il savait que quelque temps, quelques années plus tard, il allait subir pour cette femme et pour tous les autres pécheurs que nous sommes, la condamnation que nous méritions. L'Écriture dit que l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, le péché de nous tous. Je lisais ces jours-ci ce texte qui parle de la crucifixion. Ces textes, il y en a plusieurs. Quand Jésus s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, sur la croix, il a connu l'agonie physique, certes, mais ça n'était pas, même si c'est fort impressionnant, le plus terrible. Le plus terrible, c'était que lui, le Fils bien-aimé de Dieu, qui vivait dans une relation, une communion, une intimité parfaite avec son Père Céleste. Là, durant ces heures de la sombre de la croix, il a été séparé de Dieu, privé de sa présence. Et l'objet du courroux divin, parce que couvert de nos péchés, répétons-le, il subissait à notre place le châtiment que nous méritions. Le prophète Ésaïe dira que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es un brave type. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es une gentille fille. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as multiplié des actes de piété. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as été généreux, parce que tu as donné au Téléthon, à la Croix-Rouge, je ne sais plus trop qui. Tu iras au ciel parce que Christ est mort pour toi. Et si tu crois à ce message, et si tu te saisis par la foi des implications que cela a, alors oui, tu seras sauvé. Alléluia. Quelle que soit la mesure du péché, je ne te condamne pas non plus, femme. Tu as péché, certes, tu es condamnable, mais tu ne seras pas condamné parce que je te pardonne. Voilà le sens du message. Et ce message nous concerne tous. C'est bon le pardon de Dieu. Alléluia. C'est bon de bénéficier de la grâce du Seigneur. C'est bon de savoir qu'en mettant notre foi en Christ, tout notre lourd passé peut être effacé. Toutes nos fautes peuvent être oubliées de la part de Dieu lui-même. Que notre cœur peut être purifié. Que notre conscience peut être régénérée. Et que nous pouvons par sa grâce devenir ainsi des êtres nouveaux. Ah, peut-être y a-t-il des souvenirs douloureux dans votre vie. Des choses que vous avez faites et dont vous n'êtes absolument pas fier. Mais pas fier du tout. Et que vous regrettez profondément. Vous n'avez pas besoin qu'on vous accuse. Vous vous accusez vous-même. Mais si vous apportez ce poids, ce fardeau de misère, de péché, de culpabilité au Seigneur en lui disant « Pardon, Seigneur !» Eh bien, il vous fera grâce. Et toutes ces choses-là seront effacées, éliminées. Parce que quand Dieu pardonne, l'Écriture dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Et si lui ne s'en souvient plus, personne n'a plus le droit de s'en souvenir. Ni les autres, ni nous-mêmes. C'est ça le pardon de Dieu. C'est ça le pardon de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une lessive à bon marché rapide. C'est une œuvre parfaite qui purifie le cœur, l'âme, l'esprit, le corps, la conscience. L'être tout entier apporte ta misère, apporte ton péché, apporte ta honte, apporte ta culpabilité, apporte peut-être même les horreurs que tu as commises, je ne sais pas. Ça peut arriver, vous savez, il y a des gens, ils ont l'air de mériter le paradis. On leur donnerait, comme on dit, le bon Dieu sans confession. Mais c'est l'inverse qui est vrai. En dépit des apparences, ils ne valent pas cher. Il y a des choses terribles qui se sont passées, qu'ils ont commises et qu'ils n'auraient pas dû commettre. Tout cela qui te rend coupable à tes propres yeux et aux yeux de Dieu. Et aux yeux des autres peut-être aussi. Confesse-le-lui. Tombe sur ta face et demande-lui pardon. Et pardon, il t'accordera. Parce qu'il est miséricordieux. Amen. Ah, l'Écriture dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Il ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne va pas dire, encore un qui arrive cet après-midi pour demander le pardon. Oh là là, est-ce que ça se sera jamais? Non, mes amis. Chaque fois qu'un pécheur se repent, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Il ne pardonne pas à contre-cœur, il pardonne de tout son cœur. Il ne pardonne pas en rechignant, il pardonne en y prenant plaisir. C'est sa joie, c'est son bonheur, c'est sa satisfaction de pouvoir accueillir dans ses bras d'amour le pécheur le plus infect qui soit et de pouvoir lui dire, mon enfant, je te fais grâce, je te pardonne et tu deviens maintenant mon fils et ma fille et tu es sauvé pour l'éternité. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Et Jésus a ajouté, va et ne pêche plus. Vous voyez ? Il n'a pas minimisé les choses. Il a bien parlé du péché de cette femme. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plus qu'un conseil. Ce n'est pas une histoire de lui dire, écoute, vas-y mollo, hein. La prochaine fois, sois plus discrète. Enfin, quoi, essaye de te tenir à peu près. Va, ne pêche plus. Non, c'est mieux que ça. C'est une délivrance qu'il offre à cette femme. Non seulement il la pardonne, mais il la réhabilite. Il la franchit du péché. Parce que, mes amis, non seulement le péché produit la culpabilité, mais le péché produit l'esclavage. C'est pas vrai ? Une mauvaise habitude, c'est pas vrai? On est ficelé, on est lié, on est prisonnier du mal que l'on commet. Je me souviens de cet homme, il fumait, vous voyez, Ah, le tabac, mais c'est un péché. Pourquoi? Parce que ça détruit notre corps. Alors c'est un péché. L'Écriture dit que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Et cet homme me disait, mais je suis comme un chien tenu en laisse. J'ai bien aimé l'image, vous voyez. Un chien tenu en laisse, il a l'illusion de la liberté sur la longueur de la chaîne. Mais quand le maître décide qu'on va par ici et pas par là-bas, il se rend compte que sa liberté est fort limitée. Et c'est ça, l'être humain. Il est tenu en laisse par son péché. Peut-être tu en es là. Peut-être il y a de mauvaises habitudes. Au début, c'était un jeu. Au début, tu avais l'impression de maîtriser la situation. Je m'arrête quand je veux. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu es accroché. Vous savez, comme un poisson, là. Je ne sais pas si vous avez été à la pêche. Hein? Vous avez vu, de temps en temps, le poisson, il arrive à l'appât. Il le touche. Tant qu'il ne fait que le toucher, il ne risque rien. Mais il y a un moment où la tentation, c'est le cas de le dire, est trop forte. Et alors il croque, et schlack ! L'hameçon est ferré et il est pris. Il est cerné, et c'est ça le péché. Vous voyez ? Le diable nous jette des appâts. Goûte-y, tu verras comme c'est bon. Mais une fois qu'on a mordu à l'hameçon, c'est le cas de le dire, on est pris. Et on s'aperçoit qu'on a beau se débattre, voyez, comme le poisson au bout de la ligne, on ne peut pas se détacher. Mais ce que je ne peux pas faire, Jésus le fait, alléluia. Va et ne pêche plus. La Bible dit que celui qui se livre au péché, il devient l'esclave du péché. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. Peut-être tu es un esclave. Et en dépit de tes affirmations de liberté, tu es un esclave. Esclave de ce qui te domine, de ce qui t'a servi, de ce à l'égard duquel tu es obligé de dire « c'est plus fort que moi ». Mais le Seigneur peut te communiquer la vraie liberté, parce que Jésus dira, après avoir dit « celui qui se livre au péché devient l'esclave du péché », il ajoute « si le Fils de Dieu vous a franchi, vous deviendrez réellement libre ». Amen. Ce n'est pas seulement le pardon que Jésus a offert à cette femme qui lui a communiqué, c'est la délivrance. Une dignité restaurée, retrouvée. Elle a pu désormais s'engager dans une nouvelle vie, dans une nouvelle manière de mener son existence faite de pureté, de dignité et d'honneur. La page a été tournée définitivement, elle n'a plus jamais été la même. C'est ça, mes amis, l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une emplâtre sur une jambe de bois. C'est un changement de cœur, c'est un changement de vie. Ça n'est pas un placebo, un ersatz. C'est une solution radicale. C'est une guérison qui est procurée à l'âme, totale, parfaite et définitive. Y aura-t-il quelqu'un cet après-midi qui dira là dans son cœur, « Mais oui, j'aspire à cette liberté, pas à la liberté de faire n'importe quoi, ça c'est la liberté selon le monde. Vas-y, vis comme bon te semble, tout ce qui te passe par la tête, tu as le droit de le faire. » Non, c'est pas vrai, tu n'as pas le droit. Il y a la loi de Dieu, et c'est elle qui a raison. Et un jour tu seras confronté à cette loi devant le tribunal de Christ, si tu n'as pas voulu régler l'affaire auparavant. Mais dans son amour, Dieu te propose cette double grâce, le pardon, la délivrance, une vie nouvelle. Il veut faire de toi un être nouveau, quelqu'un de métamorphosé, quelqu'un de transformé, quelqu'un de réellement libre. Alléluia. Libre en Jésus. Les gens du monde ont l'impression que les chrétiens, eh bien, ils vivent dans une espèce de carcan étroit. Ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela, ils ne peuvent pas faire le reste. C'est le contraire qui est vrai, mes amis. Ce sont eux qui sont les esclaves et ce sont les vrais chrétiens qui sont des gens libres. Et c'est cette liberté-là que le Christ offre à tous ceux qui veulent bien se confier en lui, n'est-ce pas? Voilà, tout cela, il l'a fait pour elle. Il est capable, il est désireux de le faire aussi pour vous. Ma question, c'est celle-ci, le voulez-vous? Le voulez-vous? J'ai insisté tout à l'heure en me disant qu'elle était restée seule avec Jésus. Vous savez, la prière, finalement, c'est ça. C'est un contact personnel que l'on a avec le Seigneur. Hors de tout rite, de tout sacrement, de toute pratique pieuse, c'est une affaire entre Dieu et moi, entre moi et Dieu, seul avec Jésus. On va prier maintenant. Et même si nous formons un certain auditoire cet après-midi, quand on prie, on peut être chacun pour sa part, seul avec Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux avoir un ami, un collègue, un frère ou une sœur en Christ à tes côtés, mais quand tu pries, tu es seul avec lui et lui avec toi. Et dans ces moments, il peut se passer de grandes choses. La vie peut basculer, mais dans le bon sens, je veux dire. Et tu peux recevoir le secours dont tu as besoin. On va courber nos fronts, fermer nos yeux. Ce sont des moments solennels et je vous demande à tous de les respecter. Peut-être certains, vous n'avez pas l'habitude de prier. Eh bien, prenez-en l'habitude. Fermez vos yeux.